forum distrito, the forum distrito Kalam, 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 the forum distrito Kalam. Messieurs et mesdames, bonsoir et bienvenue dans le forum du studio Kalangou, une émission qui vous éclaira sur des sujets d'actualité. Le forum de ce soir a pour thème inondation à Ayoru, dégâts causés sur les espaces cultivables et les habitations. Depuis quelques années, on assiste à une recrudescence des inondations dans le département de Ayoru, région de Tillabéri, engendrée souvent par les eaux de pluie et parfois par la crue pendant le froid. Ces inondations provoquent d'importants dégâts sur les espaces cultivables et les habitations et emportent même des hommes et des animaux. C'est dans cette optique que le studio Kalangou a initié ce forum dans les locaux de la radio Sougui en vue de mieux cerner les causes et les conséquences de ces dégâts sur les espaces cultivables et les habitations des populations de Ayoru. Pour ce faire, nous avons dans ce studio M. Mahamadou Issaka, SG de la préfecture de Ayoru, président du comité chargé de la gestion des catastrophes naturelles. Nous avons le lieutenant-colonel Ibrahim Mustapha, directeur départemental de l'environnement au niveau de Ayoru. Dans ce studio, toujours, nous avons un représentant des populations, Amadou Issaka, d'Imalo. Pour conduire les débats, je suis Balkissa Midou. Merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre des interviews que nous avons faites avec la population qui vont nous dire exactement les dégâts causés par les inondations.
Les inondations nous ont causé beaucoup de dégâts. C'est le kori de Djabey qui est en amont qui a cédé pour venir se déverser dans une mare qui est près d'Ayoru. Et la mare, ne pouvant plus contenir l'eau de ruissellement, a fini par céder à son tour. C'est la combinaison de tous ces facteurs qui a engendré cet état de fait. Ce phénomène est devenu récurrent, mais les mots me manquent pour vous exprimer ce que nous avons vécu cette année. Notre seule chance est qu'on ne dénombre aucune perte en vie humaine. Tous ces dégâts que tu vois sont engendrés par les inondations. C'est un lundi matin que cette inondation a débuté. Les gens ont essayé de bloquer le passage de l'eau, mais en vain. Elle a fini par envahir toutes nos habitations. Et les populations ont commencé à crier pour qu'on leur vienne en aide. C'est ainsi que les jeunes de notre localité sont venus de partout pour nous secourir. Il y a eu tellement de dégâts matériels. Dans ma maison, je dispose de 3 chambres et d'un grand mur, comme tu peux le constater d'ailleurs. Aucun ne tient debout. C'est maintenant que mes enfants sont en train de reconstruire le mur afin de nous mettre à l'abri d'éventuels accidents comme nous ne sommes pas sur la grande voie. Nous remercions tous ceux qui nous ont assistés en cette période difficile, notamment l'État et certains projets qui nous ont dotés de bâches, de vivres pour pouvoir survivre en attendant de reconstruire. D'autres manquent d'habitation et sont même partis dans des maisons de location et ou chez leurs parents. Nous lançons un appel à l'État, ses partenaires et les bonnes volontés pour qu'ils nous aident afin de reconstruire nos maisons. Nous ne pouvons pas attendre tout de l'État, mais nous attendons son soutien et pour pouvoir compléter avec le peu que nous avons et reconstruire.
Quelle réaction l'intervention de la dame suscite à votre niveau?
Bien, merci Madame Balkissa. D'abord, je tiens à vous remercier très sincèrement pour avoir eu l'idée d'organiser ce débat qui permet de cerner la situation réelle qui s'est passée effectivement dans le département d'Ayoru, cette situation qui est l'inondation. C'est vrai, l'inondation a causé beaucoup de dégâts dans la ville d'Ayoru. Et ce que la dame vient de dire comme témoignage, c'est vraiment une réalité. Pour celui qui connaît la ville d'Ayoru, après aussi les inondations, après avoir visité le terrain, il va se rendre compte que réellement, beaucoup de maisons ont été effondrées. Et c'était vraiment lamentable. Ça fait beaucoup pitié quand vous voyez dans quelles conditions se trouvaient effectivement les familles. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ce qu'elle dit là, c'est une réalité. Et nous allons continuer peut-être dans les débats pour approfondir notre débat.
Moustapha, quelle réaction l'intervention de la dame suscite à votre niveau?
À mon niveau, vraiment, c'est la même réaction que le monsieur le SG de la préfecture d'Ayeru. Vraiment, c'est une réalité. Les inondations sont devenues très fréquentes ici dans le département d'Ayeru. Sinon, elle a parlé de 3 chambres dans sa maison, mais je pense ici à Ayeru, c'est des quartiers. Il y a des quartiers qui ont été rasés de la ville. Des quartiers entiers ont disparu vraiment.
À cause des inondations?
Vraiment, les dégâts sont énormes. C'est un peu difficile de les qualifier. Notamment, c'est très lamentable. Vraiment, c'est des quartiers qui ont été perdus donc à cause de ces inondations-là pour cette année.
Merci. Monsieur Mahamadou Dimalo, quelle réaction?
Bien. Les gens d'Ayeru ont eu la chance que cette inondation-là est survenue le matin. N'eût été ce temps-là, si c'était la nuit, en tout cas, il y aurait des morts parce que ça a surpris plusieurs personnes. Ça a surpris tout le monde parce que l'eau est allée où on ne l'a jamais vue. Des gens ont grandi là-bas, ils sont devenus des grands-pères, mais ils n'ont jamais vu de l'eau rentrer dans leur concession, si ce n'est cette année. Et heureusement pour nous, c'était le matin, les gens étaient en éveil, donc on a pu sauver ce qu'on pouvait sauver. Mais des concessions, des quartiers entiers ont été rasés complètement. Ce qu'elle a dit, c'est une vérité, c'est une réalité. Voilà.
Merci. Nous allons revenir vers vous, Monsieur Moustapha. Quelles sont les vraies causes de ces inondations?
Bon, les vraies causes de ces inondations-là, il y a un certain nombre vraiment de causes qu'on incrimine. La première cause, elle est vraiment anthropique. C'est vraiment la dégradation continue de l'écosystème. Ça, c'est la cause à la racine. Et vraiment, compte tenu de l'accroissement de la population, l'homme est en train de détruire, de dégrader dangereusement son environnement. Si je prends l'exemple, la dégradation des terres avec la disparition des forêts ou bien en amont de la végétation, ça crée la formation des terres de nidées, des terres de glacis. Donc, c'est des terres incultes. Toute la partie arable du sol est enlevée par l'érosion, ce qui fait que l'infiltration de l'eau devient presque nulle. Donc, toute l'eau qui tombe, au lieu d'infiltrer le sol, cette eau-là, elle est évacuée à travers le ruissellement. Et les ruissellements, quand c'est important, ça crée vraiment des cours d'eau, ça crée des cories qui viennent donc charrier cette eau-là, là où partout il y a la dépression, c'est ce qui cause les inondations.
La dame parle d'une mare qui a cédé.
Bon, il y a un peu de nuance. La vraie source, c'était un kori, donc qui vient des plateaux. Sur les plateaux, c'est des plateaux de nidées certainement. Donc, toute l'eau qui tombe sur les plateaux-là, elle est évacuée à travers le ruissellement. Donc, ça passe à travers un kori qui, lui, il évacue son eau au niveau du fleuve. Donc, à l'approche d'Ayeru, il y avait une digue qui protège la ville contre ce kori-là. Et du fait de la grande quantité d'eau, donc la digue l'a cédé. Donc, quand la digue a cédé, au lieu que l'eau donc continue son chemin vers le fleuve, donc c'est ce qui est donc charrié et c'était venu donc inonder le quartier. Certainement, ça a favorisé le remplissage d'un certain nombre de mares qu'il y a ici à Ayeru. Donc ces mares sont trop pleines, donc ils ont elles aussi donc charrié toute leur eau donc au niveau du quartier environnant, des maisons environnantes.
Est-ce à dire que ces inondations sont cycliques?
Ces inondations, ils sont cycliques avec vraiment ces derniers temps. Parce qu'il y a une autre cause qu'on doit mentionner aussi, la variabilité climatique, les changements climatiques. Il y a vraiment un certain nombre de conséquences. On constate donc ces variabilités climatiques, c'est un changement climatique. Ça crée trop de perturbations dans le cycle de l'eau, par exemple. Tu vois peut-être toute la pluie qui doit normalement tomber en une année, ça peut tomber en une semaine ou 2 semaines. Et vraiment, ça crée des ennuis. Donc, tu vois, souvent maintenant, on enregistre plus d'une centaine de millimètres par jour, en 24 heures, ou bien souvent même plus. Donc, c'est ce qui crée des choses-là. Donc, c'est vraiment la variabilité climatique qui crée des soucis de dérangement.
Et quels sont les types d'inondations dont les populations de Ayeru sont victimes? Est-ce qu'au moment de la crue également?
Effectivement. Tout ça est donc l'une des conséquences encore fâcheuses du comportement de l'homme. Cette dégradation-là, je te disais tantôt que toute l'eau qui vient des plateaux du Nidé, donc ça emporte avec elle le sable et beaucoup d'impuretés qui viennent déposer dans le fleuve. Donc, ce qui fait que le fleuve n'a plus sa profondeur d'antan. Donc, sa capacité de rétention d'eau, voilà, elle a dangereusement diminué. Ce qui fait que, donc, dès qu'il y a un petit apport, donc le fleuve est d'office plein, donc il va évacuer son trop-plein, donc au niveau de l'environnement environnant. Voilà.
Et comment faire pour éviter ces inondations?
Comment faire pour éviter ces inondations? Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un problème vraiment sérieux. Mais l'homme peut contribuer, par exemple, en ayant un œil un peu plus protecteur de son environnement. Et à travers, si on prend l'État, lui, par exemple, il peut engager des travaux de restauration de l'environnement pour au moins se réduire les ruissellements. Voilà, pour protéger les ruissellements. Et aussi, avec le changement climatique, on ne peut pas
prévoir ça.
On ne peut pas, c'est imprévisible. Donc, au-delà des travaux de restauration de l'environnement, il faut aussi envisager des travaux d'amélioration urbaine. Des travaux urbains tels que les caniveaux, ou bien même il faut revoir notre façon de construire. Vous voyez? Donc, il y a eu une inondation à Ayerou, mais je suis sûr qu'il y a un certain nombre de maisons qui ont résisté.
Lieutenant-colonel Moustapha, puisque vous dites que les inondations sont imprévisibles, quelles sont les conséquences que ces inondations peuvent avoir sur les espaces cultivables et les habitations?
Sur les espaces cultivables, donc la première conséquence, ça aggrave l'érosion de ces terres-là. Et aussi, quand ça intervient souvent, les cultures sont déjà là. Donc, ça détruit toutes ces cultures-là, pardon. Ça détruit les cultures et tout ce qu'il y a vraiment. Même les investissements qu'on a fait, les aménagements hydro-agricoles. Cette inondation-là vient tout saccager en quelques secondes. Voilà. Donc, ça permet, ça engendre donc la perte de la production agricole.
Je vous remercie. Nous allons revenir vers vous, monsieur le SG de la préfecture et aussi président du comité de gestion de ces catastrophes. Quels sont les types de dégâts causés par les inondations sur les espaces cultivables et aussi sur les habitations au niveau du département de Ayerou?
Bien, donc par rapport à cette question, effectivement, les dégâts sont énormes. Donc je peux vous citer quelques-uns. Maintenant, si vous prenez rien que les maisons effondrées, nous avons dans les 636 maisons tombées. On parle aussi des cases. Si on revient aux cases, bon, ça, il n'y a pas assez de cases, il y a seulement une seule. Mais les murs aussi de ces maisons-là, nous avons dans les 302 qui sont tombés. Les cuisines, il y a 6, les greniers 15, les magasins 1. Les hangars, nous avons donc 50 hangars tombés, les 132. Les digues de protection, nous avons 1000 mm là, qui sont tombés, 1000 mm linéaires. Les digues de protection, nous avons 300 mm linéaires. Les ovins, nous avons 68 qui sont morts. Les caprins, on a 57 qui sont morts. Les ânes, 2. Les champs de riz, nous avons 175,5 qui sont endommagés. Nous avons le mil, on a 28,5, donc stade de talage, qui sont endommagés. Et maintenant, le manioc, nous avons 6 hectares, hein, c'est des hectares qui sont effectivement endommagés. Donc, j'allais dire que vraiment, les dégâts sont vraiment énormes. Ça, c'est ce qu'on a eu effectivement à recenser. Il se pourrait qu'il y a d'autres qu'on n'a pas pu à insérer, mais ça, c'est ce que le comité sur-régional a eu vraiment à recenser auprès de cette population. Donc, vous voyez, donc, je dirais que vraiment, il y a des dégâts qui sont vraiment énormes.
Comment faire pour renforcer la résilience des populations riveraines face à ces inondations de plus en plus récurrentes, à votre avis?
Bon, je pense que par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire parce que d'abord, comme le colonel a eu à le dire, vraiment les gens doivent encore changer leur système même d'habitation. Les gens doivent voir encore comment faire pour que l'eau des courries ou bien l'eau des marigots, là, une fois plein, puisse vraiment écouler, avoir un passage qui va directement vers le fleuve. Mais si chaque fois les gens essaient de bloquer le passage de l'eau, je pense que quelles que soient les mesures qu'on va prendre là, on sera toujours à la casse du départ.
Est-ce qu'il y a un moyen de mobiliser ces eaux de ruissellement pour pouvoir faire d'autres activités?
Bon, les eaux de ruissellement, pour les mobiliser, en tout cas, ce n'est pas facile parce que ça coule vers le fleuve. Maintenant, peut-être les gens veulent profiter de l'eau du fleuve pour faire effectivement des jardinages, tout, en tout cas, beaucoup de choses, quoi. Mais sinon, on ne peut pas mobiliser l'eau là, hein. Parce que vous voyez, c'est une pente à Yirou. Donc, quand ça vient, s'il n'y a pas un passage, ça va stagner. Et quand ça se stagne, ça veut dire que toutes les maisons qui sont à côté là seront inondées. Et quand c'est inondé, vous voyez que même le bonco, ce n'est pas tellement la qualité. Ce n'est pas de l'argile qui peut résister vraiment à une forte pluie. Donc, c'est pour cela que... on est confronté effectivement à cette inondation. Et ce que je peux ajouter par rapport à ça, cette année, c'était une année exceptionnelle.
Quelle est la particularité?
La particularité, c'est que cette année, la quantité d'eau tombée, je pense qu'à Yirou, on n'a jamais vu ça.
C'était évalué à combien de millimètres?
Dans les 805 millimètres cette année. Alors que chaque année, ça tourne autour de 300, tout ça, là, vous voyez, madame.
Donc, ça a presque triplé?
Ça a presque triplé, vous voyez.
Et les populations n'étaient pas préparées à ces choses?
Pas du tout, parce que les gens ne s'attendaient pas vraiment à cette quantité d'eau. C'est une situation qu'ils n'ont jamais connue. Donc, quand tu n'as jamais connu une situation, tu ne peux pas prévoir que ça va arriver. Et maintenant, comme on a eu à le voir, à être victime, effectivement, le colonel avait parlé de changement climatique, c'est une réalité. Les gens vont essayer de voir quelles dispositions maintenant prendre pour faire face à ce changement climatique. Sinon, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire.
Est-ce qu'au niveau des autorités, vous avez déjà pensé à ces situations-là?
Bon, on est en train de penser parce qu'on est en train d'approcher les partenaires. D'abord, un peu lotir la ville pour qu'il y ait un passage de l'eau et si possible même...
des caniveaux.
Le creusage, effectivement, de ces marigots-là qui débordent. En tout cas, c'est sur ça qu'on est pour le moment. Si on arrive à voir ces partenaires-là, ça sera une bonne chose.
Merci, monsieur le SG et président du comité de la gestion des catastrophes. Nous allons revenir vers vous, monsieur Mahamadou Issaka, dit Maolo. Comment vous percevez ces catastrophes naturelles que sont ces inondations-là en tant que citoyen?
Bon, pour l'inondation d'ici à Euro que j'ai vécu, si la population et les autorités avaient pris des dispositions bien avant, cette inondation-là, cette catastrophe serait un peu minimisée. Parce que le pont dont on parle là, ou bien la digue a eu un trop-plein d'eau. Mais ce n'est pas la digue en tant que telle qui a cédé, mais c'est le pont. Le pont était rempli de sable. Et ça, c'est les TP. C'est les TP. Ils doivent, à l'approche de chaque saison des pluies, sillonner tous les ponts, voir où il faut arranger, où il faut curer, enlever le sable. Il y a du sable. L'eau ne peut pas passer. Quelle que soit la hauteur de la digue, l'eau va se déverser de l'autre côté de la digue si l'eau n'arrive pas à passer dans ce pont-là. C'est ça le grand problème. Bon, c'est aussi là, la mare qui est à l'intérieur de la ville. Elle aussi, si elle avait un issue de passage, l'eau ne serait pas stagnée pendant combien de semaines. Il y avait de l'eau en abondance dans la mare. L'eau n'était pas évacuée. Et quand cette grande pluie-là était venue, le pont ne pouvait pas évacuer l'eau. Alors ça se déverse et ça vient remplir davantage la mare. Tout le monde regardait. Moi, je préconisais d'ailleurs de voir la jeunesse. La jeunesse pouvait bien faire ça. Si on les mobilisait, on les sensibilisait, sans un sou, ils allaient creuser ce canal-là jusqu'au fleuve. Et si l'eau vient et ça avance dans le fleuve, c'est fini. Mais l'eau n'ayant pas eu de passage, elle va se frayer un passage, forcément. Donc, c'est ça le problème. Donc, si ce pont-là n'est pas curé, on n'a pas enlevé le trop plein de sable. Là-dedans, quelle que soit la digue, ça va toujours céder. Et de l'autre côté, la mare aussi a un déversoir qu'il faut creuser aussi pour que l'eau puisse s'en aller. Il n'y a pas eu de déversoir. Le déversoir a été bouché. Bon, la population en tant que telle, elle aussi a bouché tout le canal.
Le président du comité de gestion vient de nous donner les statistiques sur les dégâts causés. Est-ce qu'il y a eu encore d'autres dégâts en plus de ceux cités par le président du comité?
Bon, moi je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas fait l'inventaire de tout ce qui a été
Mais au
fait.
Moins vous avez un peu sionné...
Oui, les dégâts. Ah mais les dégâts, il y en a eu. Les dégâts, ça, d'autres n'auront plus jamais ce qu'ils avaient perdu. Moi je dirais ça comme ça. Hein. Bon, des exemples des maisons, une concession entière à terre, mais comment la reconstruire? Avec cette maison, des hangars, des cuisines, ce n'est pas facile. Bon, je crois que c'est comme ça. Les gens doivent prendre des dispositions. À chaque fois à l'approche de l'hivernage, l'État doit prendre des dispositions. Surtout les ponts, là. On doit revoir les ponts. Et aussi dans les communautés, les chefs de village, les chefs de quartier, avec la mairie, ils doivent se rencontrer et voir quelles dispositions faudrait-il prendre pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Si on avait curé le canal là qui déverse l'eau de la mare au fleuve, mais ce quartier du sud là ne serait pas inondé. Bon, il y a le quartier de la douane, le quartier Kouartegui, il y a aussi de l'autre côté aussi Zongo, parce qu'il y a aussi un autre Kouri qui est descendu et Bagdadouf. Oui, donc c'est à peu près ça. Si on avait enlevé ce sable là et curé le canal d'évacuation, bon, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas d'inondation, mais
on aurait limité
les inondations.
À vous entendre, on a l'impression comme si Ayoru est encerclé de mares, de coris et autres.
Bon, il y a des mares et des coris, effectivement. Oui, il y a des mares, la mare de Sissi, la mare d'à côté là de la douane. Bon, seulement s'il y avait ces issues d'évacuation-là qui ont été curées à temps, la catastrophe serait limitée. Je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de catastrophe, mais ça sera limité.
Et comparativement aux années antérieures, qu'est-ce qu'on constate?
Bon, les producteurs, moi, depuis que j'ai été victime de ça, je n'ai pas sillonné les champs et autres, mais je sais que, bon, comme il l'a dit le colonel, c'est comme ça, les terres sont dénudées, la terre arable est partie. Bon, maintenant, l'eau coule comme elle veut, hein, et même la production, elle est divisée par 10. Elle est divisée par 10 maintenant. Ceux qui produisaient 50 tonnes ne peuvent même pas produire 20 tonnes cette année. Ou d'ailleurs toutes les années, parce que la terre arable a été emportée par les eaux de ruissellement. Et c'est ça qui provoque surtout les inondations. Déficit alimentaire, on en a toujours, hein, mais cette année, ce sera encore pire. Ce sera pire parce que certaines terres ne peuvent plus produire. Des champs sont dévastés. Il faut aussi avoir du temps pour travailler. Avec les inondations, bon, on est plus préoccupé à reconstruire sa tente ou bien sa maison que d'aller aux champs. On oublie même les champs. Voilà en gros ce que j'ai...
Et les éleveurs?
Ah, les éleveurs, eux, ils ont de la paille pour leurs animaux. Hein.
Il y a des animaux emportés quand même?
Des animaux sont emportés. Les poules, il n'en a même pas parlé, notre SIG. Parce qu'il y a aussi la volaille. La volaille, elle, elle n'est même pas comptabilisée. Oui, des animaux sont morts.
C'est des milliers.
Bon, c'est des milliers, des œufs, de un peu du tout. Et donc voilà ce que j'ai à dire. Mais pour la brousse, en tout cas, il y a de la paille, il y a du foin pour les animaux. Et les animaux
à
commencent
quelque chose,
à coûter
malheur
cher.
Est bon.
Oui.
Merci, nous allons observer une petite pause avant de continuer ce forum. Revenons dans ce studio pour parler de la deuxième partie où nous allons parler de la gestion de ces catastrophes au niveau du département de Ayoru, mais aussi les perspectives envisageables. Nous allons revenir vers vous, monsieur le SIE. Vous avez brossé la situation. Et quel soutien vous avez apporté à ces populations vulnérables?
Bien, donc par rapport au soutien, effectivement, l'État et les partenaires sont en train d'assister ces sinistrés. Et il y a eu aussi des ressortissants autochtones d'ici, résidents à Niamey, et certains même aux États-Unis. Eux aussi, ils ont amené leur contribution. Donc, c'est ça qu'on est en train de gérer. Déjà pour les autres, les partenaires et l'État, chaque mois, l'État donne en tout cas des vivres à ces populations sinistrées. Maintenant, présentement, à l'heure actuelle, là, l'État est en train, en tout cas, de leur donner des vivres. Et ça sera étalé, je ne sais pas, sur peut-être 4 mois. Donc, c'est ça qu'on est en train maintenant de gérer. Bien qu'on ne peut pas satisfaire à 100% cette population sinistrée, mais au moins on arrive un peu à les consoler en attendant qu'on voit clair ce que encore l'État et les partenaires vont apporter à cette population.
Quelle est la valeur des dégâts causés en termes d'argent?
Vraiment, on n'a pas fait ce calcul, sinon vraiment à travers les dégâts là, c'est beaucoup. On n'a pas fait ce calcul parce que même si on s'arrête à 636 maisons tombées là, quand tu calcules ce qu'une maison peut revenir, en tout cas à une famille, c'est vraiment beaucoup. Et aussi les rizières qui sont inondées, ça aussi, vraiment, madame, c'est vraiment des soins. On n'a pas vraiment évalué ça, nous, à notre.
Nous savons qu'à cette période, il y a tellement de sans-abri. qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que cette population puisse survivre quand même en attendant de reconstruire?
Par rapport à cette population, effectivement, au niveau d'Aïrou, les gens, ils ont des parents là où ils se sont partis, effectivement, s'installer en attendant qu'ils arrivent à construire leur maison. Donc moi, je pense que c'est des familles d'accueil qui sont en train vraiment de les prendre en charge par rapport effectivement au logement. Sinon, il n'y a pas eu un site proprement dit pour faire loger effectivement cette population.
Nous savons que pendant ces inondations, c'est dans les classes que les sinistrés vivent. Aujourd'hui, avec la rentrée, ces sinistrés vivent avec leurs parents. Est-ce que tout le monde a des parents ici pour pouvoir les soutenir?
Ils ont tous des parents. Et nous n'avons pas eu le cas où ces sinistrés-là étaient dans les écoles. Nous n'avons pas eu ce cas. Et à Aïrou, ici, on n'a pas eu ce cas.
Souvent au Niger.
Je sais au Niger. Un peu partout, c'est comme ça. Mais heureusement pour nous, ici, effectivement, on n'a pas eu ce cas. Oui, partout, dans toutes les écoles, il n'y a pas eu vraiment les sinistrés là étaient partis s'installer.
Est-ce que vous soutenez tous les sinistrés ou bien vous procédez au choix des plus vulnérables?
Et en tout cas, la manière dont on est en train de gérer ça, on gère ça d'une manière équitable.
C'est-à-dire?
Ça veut dire que les kits, les rations qu'on donne à X, c'est ça qu'on va donner à Y. Par exemple, ceux qui ont les maisons tombées, on suppose que non, quelle que soit la nature de la maison, on devrait leur donner la même ration.
Ils n'ont pas les mêmes nombres de personnes dans
les maisons. Ils n'ont pas les mêmes nombres parce que les ménages diffèrent. Mais avec tout ça là, nous, on n'est pas tellement rentrés pour faire ce genre de calcul parce que c'est une urgence. Vous voyez, c'est une urgence, on est obligé de rapidement satisfaire vraiment ces familles-là.
À combien on peut évaluer le nombre de chefs de ménage qui souffrent de ces inondations?
Bon, les chefs de ménage qui souffrent de cette inondation, effectivement, on avait recensé. D'abord, les chefs de ménage, on avait recensé dans les 956 ménages sinistrés. Et le nombre de personnes sinistrées, quand on fait le calcul, on va dans les 5669. Les femmes chefs de ménage, nous avons 48. Donc, vous voyez, c'est beaucoup. Donc, voilà, effectivement, par rapport au nombre de ces ménages sinistrés et puis les personnes sinistrées.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau de la mairie pour pouvoir reloger ces gens?
Bon, la mairie, effectivement, comme Malou a eu à le dire, la mairie, normalement, elle doit s'investir. Il y a un point où il parle de l'État doit prendre des précautions. Ce n'est pas seulement l'État. Par exemple, là où on a parlé des ponts, la mairie est là pour effectivement trouver des solutions à la population. Et quand des situations comme ça s'approchent, la mairie doit voir comment s'organiser vraiment pour d'abord faire un passage de l'eau et en même temps voir les points où est-ce qu'il faut effectivement arranger. Voyez, parce que ce n'est pas toute chose que l'État va venir faire à la population. D'ailleurs, l'État, c'est vrai, l'État c'est nous. Mais il y a certaines situations que nous ignorons. Mais quand même, la mairie est consciente de ce qui se passe. Maintenant, c'est à eux de nous soumettre le problème et nous, en tant qu'autorité, on va les appuyer dans ce sens. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais si nous ne connaissons pas tellement la situation et que de l'autre côté, ceux qui ont été élus n'arrivent pas à satisfaire la population, mais moi, je pense que la faute revient sur vraiment les gens qu'on a choisis. Oui.
Les politiciens.
Mais bien sûr, parce qu'ils sont là. C'est la population qui les a donné confiance pour les satisfaire, pour qu'ils arrivent vraiment à régler leurs problèmes. Et s'ils croisent les bras, madame, où est-ce qu'on va aller? Non, nulle part. Il ne faut pas attendre tout de l'État.
Et quelle est la nature du don dont ces sinistrés ont bénéficié?
Bon, la nature, effectivement, moi je sais qu'il y a du riz, il y a ensuite une variété, je ne sais pas, de haricots, il y a aussi de l'huile, jusqu'à, je pense, 7 litres qu'ils donnent, il y a la farine, tout ça là. Vraiment, moi je n'ai pas tellement vérifié le contenu, il y a des bâches aussi, pour faire des hangars, au moins s'asseoir, c'est ça que vraiment...
Est-ce que ces aliments reçus répondent aux habitudes alimentaires de ces populations?
Mais bien sûr, le riz qu'on donne ici, les tout.
Bon, ça peut être une variété de riz.
Non. Le riz qu'on donne, les insulaires, là, ils ne mangent rien que du riz. Donc, c'est le riz qu'on leur amène. Ce n'est pas le sorgho ou bien autre chose. Donc, je pense que ça répond à leur habitude alimentaire. Il n'y a pas de problème.
Ok, je vous remercie. Et monsieur Moustapha, peut-on prévenir et gérer ces inondations?
Oui, la prévention, c'est ce qu'on a dit le SG. Moi, prévenir, on peut réduire...
Le risque.
On peut réduire le risque. Hein. On peut réduire le risque en faisant des travaux, genre le curage des ponts, le curage des caniveaux, et aussi en faisant des traitements des bassins versants, là où l'eau de ruissellement la prend naissance. Donc il faut traiter là-bas pour un peu amoindrir, comment on appelle ça, le ruissellement. Donc il faut traiter à l'amont le problème. Il faut vraiment récupérer les bassins versants. Il faut faire des travaux d'aménagement des bassins versants. Et aussi curer, là où c'est possible aussi. Il faut curer pour améliorer les plants et les points d'eau pour améliorer leur capacité de rétention d'eau. Donc, c'est des choses comme ça. Et aussi, il faut beaucoup faire du reboisement, vraiment pour protéger et pour améliorer l'infiltration de l'eau. Au lieu que l'eau vraiment ruisselle, il faut que cette eau-là arrive à infiltrer le sol et être utilisée pour d'autres fins.
Souvent, il y a des gens qui construisent leur habitation le nuit du fleuve, sachant pertinemment que l'eau peut déborder à tout moment. Est-ce que vous avez l'habitude d'organiser des campagnes de sensibilisation pour amener les populations à comprendre le risque ou les dangers qu'il court?
Bon, honnêtement, pour cette année, c'est vraiment une situation exceptionnelle. Hein. Sinon, les gens n'arrivent pas à voir ces... Le problème n'a jamais été aussi grave que ça. Certes, il y a quelques maisons qui sont victimes d'inondations, mais pour cette année, honnêtement, c'est une surprise. Ce qui est sûr, donc maintenant, on peut faire des sensibilisations pour amener les gens. Mais pour l'autre cas, c'est souvent le débordement du fleuve qui cause ça. Bon, on a toujours sensibilisé les gens quand même. Vraiment de prendre en compte... Donc, cette imminence de... Voilà. Mais pour cette année, honnêtement, c'est une situation exceptionnelle. Et ça, certainement, nous avons ça dans notre agenda. Nous allons davantage donc à l'intention de la population sur la nouvelle réalité du changement et de la réalité climatique. C'est vraiment une problématique qui est d'actualité. Il faut que les gens soient sensibilisés par rapport à ça. Donc ça, on va voir avec la mairie et les autorités départementales comment on peut organiser, même si c'est à la radio. Donc, des petites émissions pour un peu sensibiliser les gens sur cette thématique-là. Aussi, nous pouvons aider dans le plaidoyer. Donc, tous les partenaires. Au niveau des partenaires, donc pour tout ce qui est des travaux de restauration de l'environnement. Et aussi, nous allons toujours, comme d'habitude, l'insérer dans notre planification. Et vraiment informer qui de droit pour venir en aide vraiment à la population. Et nous sommes là pour appuyer techniquement la mairie et le département. Pour tout ce qui est technique, en tout cas, nous sommes disponibles. Donc, si notre expertise est sollicitée, en tout cas, nous sommes prêts à la donner.
Et est-ce que vous comptez mettre en place un cadre de concertation qui permettra aussi de prévenir ou de gérer ces catastrophes naturelles?
Oui, le cadre existe, c'est le cadre dont vous avez parlé, là, le comité. Ça, c'est
un comité provisoire ou ça existait bien avant?
Un comité permanent, c'est pas un comité d'urgence.
Et comment fonctionne ce comité?
Oui, en tout cas, c'est des réunions. Et le plus souvent, quand il y a des gars, on peut faire beaucoup de choses. Hein, à l'avance de la saison pluvieuse, on peut faire des missions pour voir les zones vraiment vulnérables et déjà envisager des solutions. Et aussi, quand il y a des dégâts aussi, on fait le constat ensemble. Donc c'est ça, et réfléchir, vous dites?
Il y a plusieurs actions menées par le comité.
Oui, c'est, par exemple, ça c'est le fruit du travail du comité. Le constat, évaluer les dégâts, voilà. S'il y a un dégât dans le champ, par exemple, il faut l'évaluer, voir quelle est la superficie, voilà, en termes de production.
Il y a des spécialistes qui font l'évaluation.
Tout le monde est dans le comité. Donc, des différentes spécialités sont là. Donc, chacun amène son appui technique pour évaluer un certain effet donc de l'inondation.
Merci. Et Monsieur Issaka Mahamadou, en tant que producteur et population, tout de suite, Monsieur le président du comité vient de dire qu'il y a des citoyens qui ont accueilli ceux qui étaient sans-abri et autres. Pourquoi cette solidarité?
Bon, nous sommes des Africains. On n'est pas aussi des citadins. Oui, parce que à Niamey, il y a des gens qui sont jusqu'à présent sur le goudron. Mais nous, ici, bon, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Tout le monde a des parents ici. Donc, il n'y a pas de problème à héberger son parent. Oui, et même à le nourrir.
Et quel type de soutien vous leur apportez? Bon, voilà, quel type de soutien on vous a apporté dans cette situation?
Oui. Bon, ils nous ont donné des logements. Certains qui sont un peu partout, ils nous envoient aussi des sous. De l'argent. Oui, on a eu de l'argent. Bon, chacun...
À combien on peut estimer la valeur de cet argent dont vous avez bénéficié?
En tout cas, moi, j'ai dépassé les 600 000 ou même les 700 000 francs.
Dont vous avez bénéficié
cette
année?
Oui, dont j'ai bénéficié, pas de cette année, de la catastrophe à ce jour. Oui, de l'argent qui me vient de partout.
Des parents
Des connaissances, Bon, d'anciens élèves aussi qui se sont organisés, pour, comme je suis enseignant, d'anciens élèves que j'ai quittés il y a plus de 20 ans, 25 ans, et qui se sont regroupés en comité pour m'envoyer, pour contribuer et constituer un fonds et me l'envoyer.
Et oui. Au niveau local, de quoi avez-vous bénéficié exactement?
Bon, vu ma situation, je vis presque mieux que d'autres personnes. Donc, moi, j'ai eu le logement et ça m'a suffi, malgré que ce n'est pas un logement décent. Je sais que c'est la situation comme ça.
Et vous avez combien de personnes dans votre ménage?
Moi, je suis la famille Bouddha. Hein? Nu était le départ de certains étudiants et élèves, j'atteindrai la vingtaine.
Et vous avez bénéficié de combien de sacs de riz, de farine et d'huile?
Ça, je ne peux pas les compter, hein, parce que c'est les femmes qui vont, on leur donne ça. Oui, des parents m'envoient même du riz.
Non, je parle d'ici au niveau.
D'ici, j'ai eu du riz, j'ai eu de la farine, j'ai eu de l'huile, à un moment même du sel. Et il y a les bâches. Il y a aussi l'argent aussi qu'on nous a donné une fois là, 15 000 francs par an. Je ne sais pas, c'est un projet là qui est venu, qui a donné 15 000 francs. À plus conseil, moi, je n'ai pas été. Peut-être c'est les femmes qui vont.
Sur le plan sanitaire, nous savons que cette année, le palu fait plus de dégâts.
Oui, il y a...
Est-ce qu'il y a une prise en charge?
Il y a une prise en charge des enfants. Des enfants, il y a un projet ici. Je ne sais pas quel est ce projet-là. Aliments qui traitent les enfants.
Gratuitement.
Gratuitement, de 0 à 5 ans.
Et les adultes?
Les adultes,
Est-ce qu'il y a une prise en charge spéciale pour les sinistrés?
Bon, pas pour le moment. Pour l'instant, non. On attend encore voir, mais je ne crois pas que ce soit... ça arrive, hein. Ça n'arrivera pas, je ne crois pas. Mais le problème, c'est la reconstruction. Donc, les gens sont en train de reconstruire.
Alors que la mare peut déborder.
Oh, la mare peut déborder, mais on va prendre des dispositions, madame. On va bousculer la mairie, les chefs de village, les chefs de quartier. On va les bousculer. Il ne faut pas qu'ils viennent attendre jusqu'à ce que la pluie vienne. On doit sensibiliser les jeunes. Ils sont là, ils sont prêts à le faire, hein.
Est-ce que vous avez posé le problème de relogement au niveau de la mairie? Parce que si chaque année, vous devrez faire face à ces inondations, c'est quand même de l'argent qui est jeté à l'eau.
Oui, mais la mairie n'a pas de terre pour nous reloger. Les champs appartiennent à des particuliers. Donc, la mairie ne peut pas avoir un terrain pour nous reloger. Il faut qu'elle achète des terres. Et il y a Kandaji aussi qui est là, qui nous menace de ne pas reconstruire, mais on ne peut pas rester sous des tentes pendant des années.
Pourquoi ils vous menacent?
Bon, pour eux, une fois qu'on reconstruit, ils ne vont plus reconnaître ce qu'on a reconstruit. Ils vont prendre en compte ce qu'ils ont recensé depuis fort longtemps et c'est tout. Mais moi, cette fois-ci, j'ai construit en dur, madame, avec les apports. J'ai construit.
Vous pensez que c'est la solution?
Oui, c'est la solution. Et j'ai essayé de faire ça à une certaine hauteur. Et si cette mare-là déborde et qu'elle emporte ma maison, elle ne peut même pas l'emporter. Ah, même le PA, là, ou comment on l'appelle, la préfecture, sera déguerpie.
Avant de construire, vous avez fait une étude de faisabilité?
Oui, j'ai fait une étude. Mais seulement, il faut que l'on prenne des dispositions. Il ne faut pas que la mare déborde encore. Il faut qu'on cure le pont là, qu'on enlève le trop plein de sable et que là où la mare doit aller au fleuve, l'eau de la mare, il faut que les gens prennent des dispositions. Ça, c'est même facile si on mobilisait, on sensibilisait les jeunes. Ce n'est rien du tout, mais c'est le laxisme là. Les gens sont là, ils voient nos chefs coutumiers, nos chefs de quartier, ils sont là. Surtout les chefs de quartier qui voient, qui sont dans les quartiers.
Ok, nous allons observer une petite pause avant de continuer ce forum. Revenons dans ce studio pour clôturer ce forum. Nous allons procéder à un tour de table. Quelles sont vos propositions et suggestions pour une meilleure gestion des catastrophes naturelles comme les inondations qui engendrent des dégâts énormes sur les productions agricoles et aussi les habitations au niveau du département de Ayaru? Nous allons commencer par vous, Monsieur le Président du Comité.
Bien, donc, par rapport à la gestion, effectivement, tout à l'heure, on a fait un tour de table. Moi, je crois que pour pouvoir bien gérer cette inondation, il faut que les gens, d'abord la population, prennent conscience du danger de ce qu'on vient de vivre.
Et là, ça doit servir de leçon.
Et là, il doit faire un passage de l'eau. Parce que vous savez, madame, comme c'est une situation qu'on ne connaît pas et on n'a jamais pensé que ça allait arriver, c'est même sur le passage de l'eau que les gens arrivent à construire. Et l'eau, quand ça vient, ça va faire quoi? Ça va s'arrêter et faire des dégâts. Donc, tout ce passage-là, il faut qu'on arrive effectivement à construire, à faire un passage de l'eau.
Des caniveaux?
Des caniveaux, si possible. Bon, si on a... Ça dépend des moyens que les gens ont, quoi. Parce que le fait même de creuser un peu la terre pour que l'eau passe, ça sera encore une bonne chose pour que ça va au fleuve. Vous voyez? Et là aussi, par rapport aux marigots qui débordent, là, il faut vraiment curer ça aussi. Il faut que ça soit en profondeur. Parce que c'est vrai, c'est rempli de sable, comme ils ont eu à le dire. De telle sorte que maintenant le sable empêche à l'eau de passer et que maintenant ça se strague et dès que ça s'arrête là c'est fini, c'est les dégâts que ça va causer. Et le colonel a eu à le dire, il faut prendre beaucoup de dispositions avec le changement climatique là. Les gens doivent s'asseoir avec le comité sous-régional, avec la mairie pour voir quelle est la stratégie à prendre pour que vraiment les années à venir, l'eau n'arrive pas à faire des dégâts. Mais si on croise les bras, on ne prend pas, on ne cherche pas de solution. Moi, je crois qu'on va toujours revenir à la case du départ. Donc, on doit s'asseoir pour vraiment faire une étude par rapport à cette inondation-là et remédier dans l'avenir.
Lieutenant-colonel Mustapha, comment renforcer la résilience des populations pour éviter tous ces dégâts-là?
Bon, pour renforcer la résilience de la population, moi je pense que le premier renforcement, c'est d'informer et sensibiliser la population vraiment sur la nouvelle donne du changement climatique. Il faut que la population sache vraiment le danger qu'elle est en train de courir. À part ça, donc pour renforcer leur résilience aussi, il faut vraiment faire des travaux de restauration de l'environnement. Il faut aussi que cette population soit sensibilisée pour prendre en compte les changements climatiques. Parce que ça nous impose un certain nombre de comportements. Genre ce que l'ancien a dit, il faut revoir nos manières de faire, n'est-ce pas, pour éviter les effets néfastes du changement climatique. Ça intervient dans l'agriculture, ça intervient dans tous les domaines, hein, on doit prendre des dispositions. Parce que cette année c'est l'inondation, mais le changement climatique, une autre année aussi c'est la sécheresse. C'est des choses vraiment récurrentes, donc il faut vraiment en prendre compte. Hein.
Est-ce qu'il faut trouver des manières de mobiliser ces eaux-là pour les conserver et travailler avec eux?
Oui.
Et les utiliser à d'autres?
Oui. Dans d'autres contextes, on peut le faire.
Et dans ce cas?
Dans ce cas, par exemple, c'est au niveau de Omar que cette eau-là se stagne au niveau d'Aïrou. Sauf si on va la piéger, donc en amont. Sauf si on va piéger cette eau en amont. Mais pour le contexte actuel-là, donc c'est dans les mares. Certainement, cette eau-là est utilisée pour l'abreuvage donc des animaux, aussi à la confection des briques. En tout cas, au niveau de ces mares-là, quand vous revenez, vous allez voir, c'est là où les gens font des briques et qu'ils font la construction des murs et des maisons. Voilà, en tout cas, pour le moment, c'est la seule valorisation qu'on fait de cette eau, parce que c'est en pleine ville. C'est en pleine ville. Mais si on peut piéger cette eau-là, peut-être au-delà, là où on peut l'utiliser pour la production agricole, par exemple, le maraîchage.
Merci. Monsieur Mahamadou Issaka, comment faire pour renforcer la résilience des populations afin de faire face au choc?
Comme les autres l'ont dit, il faut qu'on sensibilise cette population, que les autorités coutumières, je reviendrai encore là-dessus, qu'elles prennent leurs dispositions, qu'elles s'approchent beaucoup plus de leur population, de la jeunesse aussi surtout, parce que je vous ai dit en amont que cette jeunesse-là est prête à travailler si on les approchait. Donc, la disposition ou les dispositions qu'on doit prendre, c'est de curer le pont.
Est-ce que vous avez posé ce problème au niveau des autorités?
Ah, mais bien sûr, pas départemental. Moi, je ne peux pas aller jusqu'au haut niveau. Je suis avec la population, je suis un simple citoyen. J'en parle au chef de quartier. À mon chef de quartier, j'en ai parlé. Ah, mais alors, avec le laxisme, on a traîné les pieds et voilà ce qui est arrivé. Parce que, bon, pour certains, on croit que c'est moi qui suis sur la mare et comme d'habitude, c'est moi qui suis le premier à être inondé. Et ils croient que c'est pour ça
que j'en parle. Alors que, mais voilà.
C'est pour trouver une solution à long terme.
À long terme, il n'y a que ces deux solutions-là, ou trois. Sensibiliser les gens. Il faut qu'ils sachent que le canal-là, d'évacuation-là, ne doit pas être bouché. Il faut que les chefs de quartier se réunissent et qu'ils voient les jeunes pour que ce canal-là soit bien curé, très bien curé. Et ce sera à moindre frais. On ne donnera presque rien aux jeunes que leur thé. Ils sont prêts à le faire. De l'autre côté, il y a le pont. Le pont est ensablé, l'eau ne passe pas. Donc, s'il y a un trop-plein, mais la digue, quelle que soit la digue, elle sera débordée. Ça va se déverser encore sur nous. Voilà donc les solutions que moi je préconise. Sensibiliser la population, approcher les jeunes et curer le canal d'irrigation. Et même, comme l'a dit le SIG, s'il faut même faire dégager les maisons qui sont sur la voie d'évacuation d'eau, il faut aussi le faire, ne serait-ce qu'à peut-être dédommager un peu les propriétaires.
Chers invités, nous sommes au terme du forum du studio Kalangou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos fidèles auditeurs. C'est sur ces propositions et suggestions que prend fin le forum du studio Kalangou.